Le journal de la rédaction vous est présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Les 100 premiers jours doivent poser les fondations d'une action pérenne. C'est ce que disait Emmanuel Macron avant son élection. 100 jours après, on fera le point sur l'action présidentielle avec Camille Magnard, commentaire du politologue Stéphane Rosès. Plus de 1500 personnes attendues à Bure, dans la Meuse, pour protester contre la création d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Reportage de Sandy Dauphin, précision de Tiphaine Honoré. Le gouvernement britannique cherche à réduire les incertitudes liées au Brexit et aussi à rassurer les entreprises, il propose une union douanière transitoire avec l'Union européenne, dont nous parlera en direct de Londres Marie Vivant. Le président nord-coréen joue l'apaisement, déclare vouloir observer l'attitude des États-Unis avant de prendre une décision sur d'éventuels tirs de missiles visant les environs de l'île de Guam. C'est une précision de l'agence officielle de presse à Pyongyang ce matin. Après la reconquête de Mossoul, l'armée irakienne se lance maintenant plus à l'ouest à l'assaut de celle de Tel Afar, ville qui comptait 200 000 habitants avant de tomber sous le contrôle de l'État islamique, suivi avec Éric Piégala. Je ne crois pas aux 100 jours, affirmait Emmanuel Macron dans une interview au journal du dimanche, c'était 2 mois avant son élection, mais il estimait toutefois que ces 100 premiers jours d'une présidence devaient poser les fondations d'une action pérenne. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Alors 100 jours précisément, nous y sommes, 100 jours après le second tour. Comment est-ce qu'on peut relire ces déclarations d'intention à la lumière de la période qui vient de s'écouler?
Eh bien Antoine, on peut les relire en se disant d'abord que globalement Emmanuel Macron n'avait pas menti sur la marchandise, les fondations de son action pérenne, comme il disait, ont bien été posées, en particulier avec la grande priorité des 100 jours, la loi votée la semaine dernière sur la moralisation de la vie publique, votée mais sérieusement affaiblie. Les indemnités des parlementaires ne sont pas fiscalisées. Finalement, l'action de conseil n'est pas complètement interdite. Et ce texte qui était présenté comme fondateur, finalement, eh bien, il est à l'image de toute l'action présidentielle depuis 100 jours. Les grandes lignes sont suivies, mais c'est à l'épreuve des faits, du réel de l'action politique que se sont créés des décalages plutôt gênants. Non, les derniers présidents ont construit les conditions de leurs échecs dans les premières semaines à cause de l'outrance et du déni du réel. C'est ce que disait Emmanuel Macron le 9 avril dans cette interview au JDD. L'analyse est tellement bonne qu'il peut se l'appliquer à lui-même. Globalement, les ambitions affichées ont été revues à la baisse. Pas de loi sur la simplification des normes pour le moment. Le projet de loi sur le droit à l'erreur fiscale a été repoussé à l'automne. Alors les états généraux de l'alimentation sont bien lancés, mais ils sont déjà critiqués par les organisations agricoles. Et le pacte de confiance voulue avec les collectivités s'est transformée en pacte de défiance quand les élus ont compris l'ampleur des efforts budgétaires qui leur étaient imposés. Enfin, Emmanuel Macron avait promis de donner plus de pouvoir à ses ministres et aux commissions parlementaires, plutôt, disait-il, qu'à l'appareil d'État. Dans la réalité, 100 jours après, la plupart des ministres sont isolés, les décisions sont prises à l'Élysée et les commissions au Palais Bourbon sont largement discréditées par le manque d'expérience d'une majorité en marche appelée à voter comme un seul homme.
Camille Magnard, merci beaucoup pour parler de ces 100 jours. On est en ligne avec le politologue Stéphane Rosès. Bonjour. Poser les fondations d'une action pérenne, disait Emmanuel Macron. Pourtant, il y a les impératifs de court terme qui sont revenus sur le devant de l'actualité et qui s'imposent un peu naturellement. Est-ce que ça peut expliquer la relative faiblesse de la cote de popularité aujourd'hui du président Macron ?
Oui, constatons que la baisse véritablement sensible d'Emmanuel Macron dans l'opinion concerne toutes les catégories sociales et politiques. C'est que, sans doute, la question posée est effectivement la vôtre si par fondation on entend les raisons intimes de la victoire d'Emmanuel Macron inconnue il y a 3 ans. Il le dit lui-même au Congrès devant les parlementaires rassemblés, me semble-t-il. Le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est la restauration de la souveraineté de la nation. C'est-à-dire, il dit aux Français, en marche, notre malheur, les dysfonctionnements viennent de ce que nous ne partons pas de ce que nous sommes pour nous déployer notre génie. Or, effectivement, comme vous venez de le dire, le gouvernement, lui, il doit répondre à des contraintes de court terme. Les moyens affectés à l'armée qui ont entraîné la démission du chef d'état-major, les aides au logement, le dossier sur la fiscalité avec les allers-retours, les moyens pour les collectivités territoriales. Au fond, les pratiques gouvernementales sont, elles, anciennes. Elles semblent dire aux Français, l'extérieur nous contraint, nos engagements antérieurs nous contraignent, alors que l'imaginaire français, c'est la projection. Comme disait René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Nous devons sans cesse refonder au travers d'une présidentielle où nous allons. Et là, il y a une contradiction fondamentale. C'est pour ça qu'on peut dire que les fondations du quinquennat doivent être dorénavant étayées par des politiques européennes qui permettent à la France et aux autres pays de se déployer à partir de leur propre génie.
C'est le seul moyen, selon vous, pour conserver cette hauteur de vue qu'Emmanuel Macron a voulu donner, tout en continuant à gérer malgré tout la réalité et ne pas être hors non plus des nécessités de l'heure.
Oui, la hauteur de vue, vous avez tout à fait raison. Au fond, c'est de dire la France a un destin. On l'a vu sur la scène internationale, son rapport à Trump, Poutine, les premiers échanges avec Angela Merkel. Il dit la France est de retour. Nos amis étrangers le voient bien. Le sujet, c'est que cette France projective, qui est le propos d'Emmanuel Macron, vient buter sur une Europe procédurale de court terme. Et donc, après les législatives allemandes, une fois élue Angela Merkel, Emmanuel Macron, pour donner de l'air à son propos et une cohérence entre la hauteur de vue présidentielle dont vous parlez et l'action gouvernementale, va devoir convaincre nos amis allemands que le recul économique de l'Europe et la montée des nationalismes vient de ce que la gouvernance et les politiques européennes ne sont pas adaptées au génie européen, qui est de faire de la diversité des peuples et des modèles, au fond, un atout pour construire une Europe qui a une place dans le monde.
Merci. Merci beaucoup Stéphane Rosès d'avoir accepté d'être en ligne avec nous ce matin. Près de 1500 personnes attendues à Bure dans la Meuse en début d'après-midi pour protester contre la création d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires, projet Cigéo qui vise à enfouir donc à 500 mètres sous terre ces déchets les plus radioactifs ou à longue vie du parc français. Les opposants au site appellent à une grande manifestation donc tout à l'heure. Leur stratégie met l'occupation de terrain et action en justice. Le reportage de Sandy Dauphin.
Les manifestants commencent à se rassembler à Bure après avoir passé la nuit dans le Bois-le-Jus, devenu le haut lieu de la contestation.
Nous sommes au sud du Bois-le-Jus.
D'accord, et donc ça c'est ce qui s'appelle la Vigie Sud, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vu le nombre de voitures et de camionnettes garées devant le bois, plusieurs centaines de personnes se préparent à manifester.
Cette manif se passe un an après la chute du mur qui devait ceinturer la forêt pour que plus personne ne rentre dedans. Pour les moments, les travaux sont bloqués dans le bois.
Depuis le Bois-le-Jus, les opposants observent au loin les fourgons de gendarmerie faire des allers-retours sur les routes de campagne. Manifestation sensible, la dernière en février s'est terminée par des heurts. Pas de quoi décourager Jean-Pierre Simard, il ne veut pas que les déchets radioactifs passent devant chez lui.
Je vais voir passer les trains sur cette ligne à 500 mètres de ma ferme.
Et ce sera l'un des rares agriculteurs du coin à manifester.
Moi, je connais plein de gens, y compris des paysans, qui ne sont pas favorables au projet. Mais comme ils ont des accompagnements et des facilités au niveau économique, voilà, ils n'iront pas s'afficher pour être contre le projet.
La manifestation débutera à 14h sous un ciel orageux.
Merci Sandy Dauphin. On vous retrouve donc tout à l'heure à 18h pour le suivi de cette manifestation. Tiphaine Honoré, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout semble se mettre en place pour faire de Bure une nouvelle ZAD, une nouvelle zone à défendre, même si le mot n'est pas toujours prononcé.
Oui, on vient de l'entendre. Ce 15 août marque un premier anniversaire symbolique pour les opposants. Cela fait maintenant un an qu'ils ont démonté le mur entourant le futur site d'enfouissement. Depuis, le projet Cigéo accumule des retards. Car la stratégie de ces militants antinucléaires est bien de se battre sur deux fronts. Juridique d'abord. Dès 2016, des associations ont obtenu du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc l'arrêt du déboisement du site. Cet hiver, ce sont des habitants de la commune qui ont fait annuler la cession de ce bois. Dernier épisode en juin, avec l'obligation pour l'ANDRA, qui pilote le projet, de réaliser une étude d'impact des forages en profondeur. À cela s'ajoutent les interrogations émises en août par l'autorité de sûreté nucléaire elle-même au sujet du comportement des déchets. Conséquence, le début des travaux est déjà reporté d'un an, soit en 2022. Et c'est sans compter l'occupation du terrain par des opposants. Depuis l'été dernier, une dizaine d'entre eux s'y relaient nuit et jour, soutenus par certains agriculteurs de la commune. Alors ces tensions médiatiques et politiques ne sont pas sans rappeler d'autres dossiers brûlants, comme Notre-Dame-des-Landes ou Sivens. À Bure, les militants refusent encore de parler de ZAD, zone à défendre, mais les ingrédients sont bien là pour susciter la crainte de débordement. Malgré la centaine de gendarmes sur place, le risque de heurts existe, tout comme celui de l'enlisement politique pour les autorités.
Tiphaine Honoré, merci. Le conducteur qui a tué une adolescente et blessé 13 personnes en fonçant hier soir sur une pizzeria à Sept-Sorts, c'est un village de Seine-et-Marne, avait absorbé une quantité importante de médicaments. Son mobile reste encore obscur. Le parquet et le ministère de l'Intérieur ont dès le départ écarté la piste terroriste. Les propositions de Londres pour les modalités du Brexit. Le ministre britannique chargé de la question annonce ce matin un plan pour une union douanière temporaire. Il appelle de ses voeux donc une transition en douceur pendant cette période. Le pays conserverait un lien étroit donc avec l'Union européenne. Ça permettrait la libre circulation notamment des marchandises. Le ministre du Brexit évalue cette période de transition à 2 ans et manifestement donc les Britanniques redoutent surtout les conséquences de la sortie de l'Europe. Et il se pose, Marie Vivant, la question de savoir comment quitter cette union sans bouleverser l'économie.
Oui, l'objectif de cette union proposée par le ministre du Brexit ce matin, c'est de minimiser les incertitudes et les tensions commerciales, car une fois le Brexit officiel, plusieurs entreprises craignent la mise en place de contrôles douaniers qui entraîneraient des retards longs et coûteux. Selon de nombreux experts, il va être extrêmement difficile, voire impossible, de négocier un nouvel accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne avant la date butoir de mars 2019. Le gouvernement britannique propose donc cette union douanière temporaire, une période de transition d'environ 2 ans pendant laquelle le pays ne ferait plus partie de l'UE, mais conserverait un lien étroit avec elle, le temps en fait de négocier avec Bruxelles de nouveaux accords commerciaux et douaniers. Les Britanniques plaident pour une séparation en douceur avec le bloc européen, leur principal partenaire économique. Le week-end dernier, déjà dans une interview au Sunday Telegraph, les ministres du Commerce et des Finances avaient évoqué cette période transitoire, proposant que le Royaume-Uni ait le statut de pays tiers, qu'il ne fasse plus partie des traités européens, mais qu'en même temps, les frontières continuent à fonctionner normalement et que les entreprises puissent embaucher des employés européens. En résumé, l'exécutif ne veut pas de changement immédiat. Prêt à répondre aux critiques, ses ministres préviennent, ce n'est pas une porte dérobée pour rester dans l'UE.
Marie Vivant, bonjour. Merci beaucoup, pardon, en direct de Londres. J'ajoute que le député travailliste d'opposition Chris Leslie, qui est un partisan du maintien dans l'Union, affirme que cette proposition n'est qu'un vœu pieux. Il est fantaisiste, dit-il, de prétendre que nous pouvons avoir des échanges commerciaux libres sans conflit avec notre partenaire, alors que le gouvernement reste déterminé à sortir le Royaume-Uni de l'Union douanière. En tout cas, la Commission européenne annonce qu'elle va étudier de près ces propositions britanniques. Elle parle toutefois de pas positifs en vue du démarrage véritable de la première phase de la négociation. Le président nord-coréen semble décidé à mettre une pause sur son projet de tirer des missiles près du territoire américain de Guam. Kim Jong-un avertit cependant que cet exercice va aller de l'avant en cas de nouvelle action irresponsable de Washington. La Corée du Nord avait menacé la semaine dernière de tirer 4 missiles au-dessus du Japon en direction de cette île de Guam. Après la reconquête de Mossoul, l'armée irakienne se lance maintenant à l'assaut des derniers bastions encore tenus par l'État islamique en Irak et elle annonce donc le démarrage d'une campagne de bombardement sur Tal Afar. C'est une ville qui est encore tenue donc par les djihadistes à 80 km à l'ouest de Mossoul qui comptait 200 000 habitants tout de même avant de tomber donc sous le contrôle de l'EI. Ça confirme, Eric Bieghella, que la reconquête du terrain en Irak, comme en Syrie d'ailleurs, n'est pas encore loin de la complète.
Oui, l'État islamique dispose encore de vastes territoires en Irak. Alors vous l'avez dit, donc 80 km à l'ouest de Mossoul, il y a la ville de Tal Afar qui est actuellement complètement encerclée et dont la bataille en vue de sa libération est sur le point de commencer. Ce matin, les avions irakiens ont débuté une campagne de bombardement sur Tal Afar qui devrait être suivie d'un assaut au sol, probablement dans les prochains jours. Dans le centre du pays, dernière position tenue par les djihadistes de l'État islamique sur la vallée du Tigre, demeure également la poche d'Awija et la campagne environnante. Il s'agit là d'une position importante, stratégique, proche des champs pétroliers de Kirkouk et de la grande raffinerie de Baïji. Il y a enfin, dans la province la plus occidentale du pays, sur la vallée de l'Euphrate, les villes d'Ana, Rawa et Al-Qaïm, à la frontière syrienne. Et plus au nord, toujours en suivant le cours de l'Euphrate, en le remontant en fait, l'État islamique contrôle en Syrie une longue bande de terrain avec leurs villes et leurs villages le long du fleuve sur près de 200 km. C'est en fait là l'essentiel de ce qui reste du territoire du califat, à cheval sur la Syrie et l'Irak. C'est probablement là que se trouvent les derniers cadres importants de l'État islamique, dont possiblement son calife lui-même, Abou Bakr al-Baghdadi, s'il n'a pas été tué dans un bombardement comme annoncé par la Russie au début de l'été. C'est probablement là, enfin, que se jouera la bataille finale contre l'État islamique, lequel, en prévision des assauts à venir, vient de décréter la mobilisation générale de tous les hommes de 20 à 30 ans dans cette province, et ce, pour reprendre les termes d'Al-Naba, la newsletter du califat, et ce pour participer à la défense de ce qui reste de territoire encore entre ses mains.
Éric Biégala, au Mali, 9 personnes dont un casque bleu togolais, 5 agents de sécurité maliens tués lors de 2 attaques distinctes hier contre la mission de l'ONU. Donc dans ce pays, la MINUSMA, des attaques auxquelles il faut ajouter l'attentat meurtrier dimanche au Burkina Faso qui a fait 18 morts et qui surviennent donc alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies discutera tout à l'heure de la sécurité en Afrique. La constitution d'une force internationale anti-djihadiste au Sahel doit notamment y être évoquée. Le glissement de terrain au Sierra Leone, qui a emporté des dizaines de maisons hier dans un faubourg de la capitale Freetown. Il s'est alourdi. 270 morts au moins. La météo, orage sur un grand quart nord-est du pays, nuageux partout ailleurs, des températures qui iront de 20 à 34 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Yacine Bouzard et le prochain journal est à 18h.